aujourd'hui au programme d'Opening Weekend, des animatronics maléfiques, mais aussi un garçon et un héron. On a le plaisir d'accueillir Damien Gola de Wild Bunch. Opening Weekend, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Opening Weekend, enregistré depuis les 7 Batignolles, et c'est un vrai plaisir d'y être ce soir, un plaisir assez double même, puisque notre ami Quentin Dufournet est avec nous pour sa dernière depuis ce site. Il va vous dire un petit peu plus tard pourquoi c'est sa dernière peut-être, même s'il est assez timide, là je le sens à côté de moi. En tout cas, il n'est pas le seul autour de cette table, puisque nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Damien Gola, directeur de la distribution et des acquisitions chez Wild Bunch. Bonjour Damien.
Salut Aurélien, merci de l'accueil.
Bah écoute, merci à toi d'être ici. Ça fait longtemps qu'on espérait t'avoir et l'occasion est évidemment toute trouvée avec la sortie du nouveau film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, très attendu, et on va voir que les premiers chiffres sont on ne peut plus encourageants. Également autour de cette table, Tom Abrami. Salut Tom.
Salut à tous.
Mais également le retour de ma fille Macalou. Salut ma fille.
Salut Aurélien, bonsoir à tous.
Et Charlotte Escolier. Salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonsoir à tous.
Nous devrions avoir Julien qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes, une fois de plus si les transports le permettent. Mais sans plus tarder, je le disais Damien, on va rentrer dans le vif du sujet. On est à quelques jours maintenant, à deux jours même de la sortie du nouveau film d'Hayao Miyazaki. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu confiant, en tout cas suite à un week-end riche en avant-première prometteuse?
Écoute, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'on attendait impatiemment la journée d'hier, alors qui était précédée même d'une exclue donnée au Grand Rex pour une nuit Miyazaki, vraiment, qui a démarré donc samedi soir et qui permettait de projeter le film en avant-première plus 4 films du catalogue. Et effectivement, hier, on a réalisé sur un peu plus de 450 cinémas la bagatelle de 72 000 entrées, ce qui est évidemment très très encourageant, ce qui est particulièrement intéressant puisque, comme tu le sais, Miyazaki, on ne l'a pas vu non plus depuis 10 ans et que les comparatifs sur les chiffres sont forcément plus limités. Le marché a beaucoup changé. Mais en tout cas, la structure d'audience qui est très centre-ville au départ, on avait assez peu de doutes là-dessus et on avait effectivement des bons signaux au départ. On a pu voir sur la journée d'hier qu'il y a des postes sur de la petite et moyenne exploitation avec des salles qui ont fait un travail formidable aussi pour présenter, mais qui ont fait des chiffres extrêmement intéressants et qui sont de bon augure aussi pour aller chercher un coefficient fort, et j'espère plus fort que le record actuellement détenu plutôt par le Château Ambulant, en fait, qui était le plus gros au démarrage en termes de coef, et en termes de chiffres c'est très très proche avec Ponyo sur la falaise.
Et effectivement, il faut rappeler que le dernier film du Miyazaki, c'était Le Vent se lève, c'était en 2013, donc il y a exactement 10 ans. À noter que là, on a déjà aussi des indications sur les préventes de ce soir, et il y a encore beaucoup d'avant-premières, et que ça se porte aussi bien qu'hier. Donc il y a vraiment une envie, j'ai l'impression, là, très très forte, peut-être parce qu'aussi les films sont devenus mythiques au fil du temps. D'ailleurs, Quentin va nous dire un mot là-dessus, mais je crois qu'il y a eu, ici au 7 Batignolles, et pas seulement ici, mais dans toute la France, des rétrospectives avec pour certains peut-être leur première expérience de Miyazaki sur grand écran avec des films on ne peut plus cultes.
Exactement, alors comme je pense de nombreux exploitants, on a décidé de faire cette petite rétrospective de Miyazaki parce que Miyazaki c'est une filmographie importante avec un public qui peut être très très large à toucher. Donc en fait, nous au Batignolles, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'essayer d'avoir des indicateurs justement pour la sortie du Garçon et du Héron qu'on sort mercredi. Et pour être tout à fait honnête, en fait, on a zéro indicateur, tout simplement parce que dans notre programmation, on a choisi de ratisser large, donc des films un peu plus anciens, notamment le premier, Nausicaa de la Vallée du Vent, des choses plus récentes comme Ponyo, et surtout on a réparti les VF et les VO, c'est-à-dire que chaque film avait une VF et une VO. Ça nous a permis nous de déceler si pour la sortie du Garçon et du Héron, il fallait mieux viser sur un public plus jeune avec une VF ou un public plus âgé en japonais sous-titré. En fait, ils ont tous surperformé par rapport à ce qu'on attendait. On a fait énormément de complètes en salle numéro 2. Alors c'est très drôle qu'on ait cité le Château Ambulant parce qu'effectivement c'est celui qui a encore fait le plus d'entrées. Il a fait une complète sur les deux, en fait, complète en VF, complète en VO. Et par conséquent, sur mercredi, on part sur une pleine prog avec moitié VF et moitié VO. Donc à la fois on n'a pas eu d'indicateur fort sur quel type de public allait toucher, mais finalement se dire que ça va toucher un très large public, des jeunes enfants qui sont accompagnés par leurs parents, aux parents peut-être un peu plus mélancoliques. C'était l'indication qu'il nous fallait. Donc on est très très confiants, nous, sur la sortie de mercredi.
Alors, ça pouvait pas être plus précis, mais c'est vrai que cette opération a pu être aussi rendue possible, car depuis 2020, il faut le préciser, Wild Bunch a récupéré les droits de diffusion en salle des films de Miyazaki, aussi d'ailleurs sur DVD, je crois. Donc vous avez, c'était à l'époque sans du tout savoir forcément qu'il y aurait ce film, ou c'était déjà dans les tuyaux. Comment ça s'est passé?
Alors, comme tu sais, la gestation du film a été assez longue, donc il était en réalité dans les tuyaux déjà quand on a pu récupérer le catalogue, donc ce qui faisait de nous un candidat légitime, on va dire, pour pouvoir sortir le gars sur les ronds. Mais comme disait Quentin, ces nombreux cycles d'animation, il y en a beaucoup depuis la reprise du catalogue il y a 3 ans. On cumule aujourd'hui plus de 600 000 entrées sur les entrées catalogue, ce qui est quand même juste énormissime. Tu l'as dit, Aurélien, c'est aussi l'occasion c'était l'occasion pour de nombreux nouveaux publics de découvrir Miyazaki en salle, parce qu'évidemment, Le Vent se lève date en lui-même d'il y a 10 ans pour la génération des 15-24. C'est un des enjeux qu'on a en fait sur cette sortie aussi. Quentin, tu disais qu'il était difficile d'avoir des indicateurs précis effectivement sur les différents publics. Et c'est une problématique qu'on s'est posée aussi pour la sortie du film. On sait qu'évidemment, cœur d'audience qui est très japanime, plutôt 35 ans et plus. Mais on a fait un vrai effort pour travailler spécifiquement la cible des 15-34 avec justement précisément cet enjeu de leur faire découvrir pour la première fois une nouveauté Miyazaki en salle. Et pour ça, les cycles qui courent depuis 3 ans, qui fonctionnent très fort, et là aussi, quand on a dit, on parle du château ambulant, mais il y a évidemment celui qui est la porte d'entrée pour tous les jeunes enfants et le jeune public aussi de Miyazaki, qui est Totoro, bien évidemment. C'est le plus facile d'accès, c'est celui qui a généré le plus d'entrées, d'ailleurs, en cumul depuis qu'on exploite le catalogue, mais avec régulièrement différents titres mis en avant et plusieurs fonctionnent tous très bien. Sans oublier, évidemment, pendant la période du confinement, tout un public qui a pu découvrir aussi tout le catalogue Miyazaki, par le biais de Netflix également. Ça a généré évidemment des vues colossales et c'est un petit peu, ça a permis en tout cas au réalisateur, à l'univers Ghibli, de changer de paradigme aussi et de ratisser effectivement beaucoup plus large. J'espère que ça se verra en tout cas dans les entrées. On a pu constater que sur les avant-premières d'hier, le public est extrêmement mélangé justement. Donc ça aussi, c'est un indicateur très intéressant. Avec voilà, tout ce qui est un peu spécifique à Miyazaki, ce qui le rend aussi moins facile d'accès sur les plus jeunes. On parlait de Totoro. La plupart des autres, effectivement, sont moins recommandables pour un public de moins de 9-10 ans en général.
Oui, d'ailleurs, celui-ci, je crois, n'est pas forcément pour les tout petits, mais plutôt, comme tu disais, peut-être à partir de 9-10 ans.
On le recommande à partir de 10 ans, effectivement. Ouais. Il y a pas, disons que c'est toujours des univers assez complexes et on aime d'ailleurs revoir les Miyazaki. Je pense que celui-là, encore plus peut-être que la moyenne, les spectateurs adoreront le décortiquer et le revoir également. Donc, c'est pas tant d'un point de vue violence que d'un point de vue compréhension.
Et alors comment, parce que c'est un film qui, il faut le rappeler, a une gestation déjà assez longue, puisqu'au départ, si on revient un peu dans le temps, en 2013, Hayao Miyazaki avait annoncé que ce serait son dernier film, Le Vent se lève, puis finalement, 3 ans plus tard, je crois, il revient sur cette décision et fait ce film, en partie de ce que j'ai compris, pour son petit-fils, ou en tout cas pour... transmettre quelque chose qu'il n'avait peut-être pas pu encore transmettre. Et le film arrive dans les salles au Japon au début de l'été, le 14 juillet dernier, sans aucune bande-annonce, sans aucun trailer, avec juste une affiche qui est en fait un dessin de Miyazaki lui-même. Très étonnant hein, sur le papier. D'ailleurs, nous-mêmes, on avait été assez bluffés par cette façon dont il est arrivé et en plus dont il a très bien marché tout de suite. Est-ce que vous avez été informé de tout ça en amont? Est-ce que c'était d'emblée, vous saviez que ça allait être spécifique au Japon? Vous vous êtes dit, ou alors vous avez dû négocier pour faire une sortie un peu plus conventionnelle, on va dire, dans les salles françaises?
Alors pour tout te dire, nous, évidemment, on a présenté une stratégie de lancement depuis le mois de janvier par l'intermédiaire de Goodfellas, hein, qui est la société de Vincent Maraval. C'est lui, effectivement, qui traite avec Miyazaki, qui a l'exclusivité des ventes, alors en dehors des US, qui ont dealé en direct avec Ghibli, et qui avait l'ensemble des territoires. Et au moment où le film est sorti au Japon, effectivement, c'est dans la foulée de leur sortie qu'on a su effectivement qu'on allait avoir la chance de sortir le film, nous.
Et vous ne le saviez pas avant?
On ne le savait pas avant.
C'était pas dealé, en tout cas.
Exactement. Et on a dû se retenir un mois supplémentaire, voire même un mois et demi, jusqu'à la fin août, pour pouvoir annoncer effectivement la date de sortie française, qui, je vais être complètement transparent, on visait depuis le mois de janvier, plutôt le 25 octobre. C'est vrai qu'il y a un certain Dune 2 qui était au 1er novembre, qui s'est décalé. Quelque part deux jours en fait avant la sortie de notre communiqué de presse, et évidemment on a sauté sur cette énorme opportunité de pouvoir récupérer cette date là et pour revenir à ton point sur le matériel, c'est vrai que cette sortie japonaise, donc très singulière, très spécifique, qui en faisait une espèce de d'antithèse absolue de ce qui a pu se passer sur la même période dans le monde avec Barbie, qui était un marketing opulent, extrêmement efficace et fort. Et effectivement, s'il y a bien un pays où il pouvait se permettre de le sortir de cette manière après 10 ans, c'est le Japon. Tu l'as dit, le film a réalisé un très bon démarrage, c'était même le meilleur démarrage d'un Miyazaki là-bas, pour en fin de carrière finalement se situer en troisième position de l'ensemble de sa filmographie. Nous, le premier enjeu tout de suite, c'était de dire, voilà, il est évidemment inenvisageable à l'international de sortir le film dans les mêmes conditions et qu'il va falloir qu'on ait du matériel. Et très rapidement, la relation avec Ghibli étant très fluide et saine, Puisqu'en tant que responsable du catalogue, on avait régulièrement l'occasion de leur remonter des chiffres, des infos, et qui nous ont fait confiance, ainsi que Goodfellas, quant au fait de créer, nous, une bande-annonce et une affiche pour la France qui allait être reprise par, a priori, l'ensemble des territoires internationaux. Donc c'était une pression supplémentaire, mais qu'il a fallu gérer dans un laps de temps très court, puisque, comme tu le sais, on a annoncé cette date de sortie qu'à la fin du mois d'août. Donc on s'est vraiment mis à commencer à travailler à ce moment-là. Donc,
avec Ferrare, pour être souligné, l'annonce en elle-même du distributeur et de la date de sortie a fait l'effet d'un énorme buzz sur les réseaux sociaux, alors même qu'on parle souvent de ne pas sortir trop en décalé par rapport au Japon, du fait du piratage ou autre. Là, y avait une attente déjà qu'on sentait fébrile de la part du public français sur cette annonce-là, et on a vu des dizaines et des dizaines de posts relayer l'information, et justement avec à chaque fois une joie non dissimulée, quoi. Donc c'est étonnant, c'est rare en fait dans notre profession.
C'est vrai que c'est assez rare, parce que comme tu l'as dit, on peut citer les exemples en tout cas sur les très grosses franchises japanimes de One Piece, effectivement chez Pathé qui est sorti d'Endate avec le Japon, ouais. Avec la différence que le matériel était préexistant, là c'était purement et simplement impossible pour les raisons qu'on évoquait de sortir en même temps que le Japon, et qu'il fallait leur laisser un petit peu le temps de se lancer, et qu'il avait déjà été dealé à l'international le fait que le film ferait l'ouverture des festivals de Toronto et de Saint-Sébastien. Donc c'est vrai que ce communiqué, il a eu une répercussion assez énorme d'un point de vue organique. On a senti une vraie joie non dissimulée, comme tu dis, et même de soulagement chez les fans qui se demandaient vraiment quand ce film effectivement allait sortir sur les écrans français.
Et d'autant que la sortie des Miyazaki sur les écrans français n'a jamais été vraiment non plus une évidence. On se souvient de débuts compliqués, puisqu'il faut quand même rappeler que le premier film de Miyazaki date de 84, mais qui n'est apparu sur les écrans français qu'au milieu des années 90. Je crois que c'est Porco Rosso en fait qui est sorti avec le moins d'écart dans le temps. Il a dû sortir en 95 alors que le film date de 92. Déjà 3 ans,
c'est
déjà très long. Mais tous les précédents, que ce soit Totoro, Le Château dans le Ciel, Kiki la petite sorcière ou Nausicaa, ils sont vraiment sortis après. Princesse Mononoke est, ma connaissance, le premier film à être sorti la même année au Japon en 97 et en France dans la foulée. Donc voilà, c'est une histoire particulière aussi avec l'exploitation française et le rapport aux salles françaises Miyazaki pour devenir aussi, rappelons-le, avant d'être sous le drapeau Wild Bunch, la propriété temporaire de Disney, qui en a aussi, qui a aussi peut-être permis, du fait de son association avec Ghibli, comme ça, d'élargir aussi un temps le public. Donc tout ça fait que le film arrive aujourd'hui avec un bagage qui n'est pas banal non plus. Donc on va voir comment ça se comporte dans les salles, mais quoi qu'il en soit, ça démarre plutôt très bien. Julien nous a rejoint. Salut Julien, est-ce que tu peux prendre le micro?
Bonjour tout le monde, comment ça va Damien?
Salut Julien, ça va très bien et toi?
Eh bien, Julien est donc là. Alors, il est temps de faire le point sur le box-office US avec un focus sur un véritable phénomène. On parlait déjà un peu de phénomène tout à l'heure pour Le Garçon et le Héron, mais là, on va aussi parler d'un autre phénomène, cette fois-ci peut-être plus lié à la fois à un jeu vidéo et à la fête d'Halloween. Mais en tout cas, c'est vraiment fou ce qui se passe depuis ce week-end.
Il y a beaucoup de phénomènes en ce moment.
Ouais.
Tiens, est-ce que tu sais combien ça fait worldwide, le château ambulant ou le voyage de Chihiro?
On attendait que tu arrives pour nous le dire.
C'est fort. Non, ça monte assez haut. Ça va du. Je crois que le voyage de Chihiro, c'est 330 millions et 230 pour le château ambulant. Après, c'est pas évident de trouver avec la traduction. Mais voilà, et en tout cas, ça existe à l'international et on a hâte de le découvrir le 1er novembre. Alors, pour revenir sur le box-office international, worldwide, US, on va tout mixer aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, nouveau phénomène qui se prépare, en tout cas qui est déjà arrivé. Il y a eu une sortie simultanée sur Peacock et dans les salles. Ça n'a pas empêché de cartonner au box-office puisque c'est lui qui tient la tête du worldwide avec 130 millions. Il a ouvert à 70 millions aux US. 70 millions aux US sur 121 millions sur le week-end, c'est 65% du marché. Donc il a tout ramassé.
Tu peux peut-être dire le titre, parce qu'on l'a
pas dit.
J'ai pas
dit le titre.
Non, si, on n'arrête pas de tourner autour.
C'est vrai.
Mais on n'a pas dit le titre.
Five Nights at Freddy's.
Five Nights at Freddy's.
C'est ça, c'était pour. Mais il va dire le titre, le titre.
Mais donc, on parle aussi pour la France, parce qu'il y a eu quelques séances déjà en France
qui ont fait parler d'elle. Première vendredi soir, ça a fait plus de 27 000 entrées, une moyenne par copie qui était de plus de 250. Donc en tout cas, ça monte, le film il arrivera le 8 novembre.
Alors juste, parce que là, on donne des chiffres, parfois certains peuvent nous dire oui, mais c'est des chiffres qu'on ne comprend pas. Sachez que ce sont parmi les records de pré-vente sur des soirées horreur chez les circuits, que ce soit Pathé, CGR... Kinépolis, Megarama, il y a des records de battus avec ce Five Nights.
Il y aura déjà une grosse soirée mardi soir pour Halloween, évidemment. Et puis surtout, pour vous donner une petite idée de l'ampleur du phénomène, c'est qu'avec 130 millions, déjà, c'est le meilleur démarrage pour un film Blumhouse devant Halloween. On a quoi d'autre? C'est aussi le meilleur démarrage pour un film d'horreur sur l'année. Il a battu Scream 6 qui avait ouvert à 44 millions. Deuxième meilleur démarrage pour une adaptation tirée d'un jeu vidéo, évidemment, c'est pas passé devant Super Mario, lui, qui avait ouvert à 146 millions, donc pas si loin. Donc on a 10 meilleurs Blumhouse.
Ce qui est fou, en fait, je trouve, c'est vraiment le côté mondial de ces records.
Tu connaissais le jeu vidéo?
Un petit peu, mais c'est un jeu vidéo qu'il faut préciser aussi. C'est un jeu vidéo en ligne qui n'a pas été vendu en boîte ou qui n'est pas disponible d'ailleurs vraiment sur console. C'est vraiment un jeu vidéo PC, peut-être Mac d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui est jouable en ligne et donc qui fait office d'un phénomène qui n'est pas forcément perceptible par ceux qui sont... Il n'y a pas de pub autour de ce jeu, par exemple, ou très peu.
Mais pour te dire, c'est le troisième meilleur démarrage pour un film d'horreur all time. Hein. C'est derrière Hit qui avait ouvert à
123
millions aux US. C'est 91 le 2, le chapitre 2, et donc devant Halloween, lui qui avait ouvert à 76. Non, c'est juste improbable. Alors les estimations, elles l'avaient posé entre 50 et 80 millions sur le box-office US, donc c'est allé, ça a atteint vraiment le sommet de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'on pouvait tirer sur le film. Donc c'est juste un vrai phénomène.
Alors il faut rappeler aussi que le film, donc c'est un film Blumhouse, donc la société de production de Jason Blum, qui a donc certainement racheté les droits de la franchise pour l'occasion. C'est pas son premier non plus gros succès, mais là ça dépasse quand même toutes les
attentes.
C'est son meilleur. Et à noter aussi que c'est Universal qui distribue, et donc que c'est pour Universal la deuxième adaptation d'un jeu vidéo dans l'année qui casse tous les records. On a souvent dit qu'Universal n'avait pas justement de franchise de super-héros. Et là, on l'a souligné avec Super Mario, qui avait peut-être un switch qui était en train de s'opérer. Et là, en tout cas, il y a un truc qui se passe de ce point de vue-là, qui est peut-être à
souligner. Switch, je ne sais pas, parce qu'ils ne partent pas du principe, à mon avis, du genre « je fais une adaptation du jeu vidéo, ça va cartonner ». C'est vraiment des projets séparés, pensés différemment. Super Mario, c'était quelque chose d'attendu. C'était quelque chose qu'il fallait être très léché, il fallait être très précis.
Ah, mais on est d'accord que ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça participe quand même d'un univers.
De toute façon, ça rentre, puisqu'on, comme tu l'as dit, on le met dans les records meilleure adaptation pour un jeu vidéo. Donc forcément, ça rentre dans une liste et elle fait partie de cette liste, au même titre qu'un Assassin's Creed, qu'un Uncharted. Sauf que par contre, est-ce que ça avait déjà été fait une adaptation d'un jeu de plateforme, comme tu dis?
Un peu d'un jeu,
d'un jeu en ligne, je crois que c'était un jeu sur téléphone. En...
Sur PC aussi, on l'avait. Ouais. Mais y a... D'ailleurs, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Universal avait tenté de faire Warcraft il y a quelques temps et que ça n'avait pas pris à l'époque. Mais bon, là, ça prend. En tout cas, c'est fou.
J'avais quand même fait, je crois, 2 millions en France, 1,8 million.
Mais pas au niveau de casser des records. Et j'ai même noté un meilleur démarrage de l'année en Ukraine. Voilà, c'est important de le souligner parce que comme quoi, voilà, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais...
Les top marchés, c'était le Mexique qui a ouvert à plus de 10 millions de dollars, UK 6 millions, Brésil 4 millions, l'Australie 3,7 et l'Allemagne 2,6. Donc généralement, on se situe à peu près au niveau de l'Allemagne en France, voire au-dessus. Donc ça annonce du bon pour le marché en tout cas.
Et ça a un peu éclipsé tout le reste du box-office, j'ai l'impression.
Ah mais il n'y a plus rien derrière.
Il n'y a plus rien, d'accord.
Alors, deuxième position, on retrouve au Worldwide, on a Killer of the Flower Moon qui est en troisième position sur le box-office US. Alors Killer, il a rajouté 24 millions de dollars de recettes, il en est à 88. Taylor Swift, toujours là, 14 millions sur le box-office US, elle en est à 150 millions sur le box-office US et Worldwide, elle est à 203. Donc c'est aussi un phénomène, un autre type de phénomène, mais à prendre en compte.
Ouais.
Est-ce que c'est pas justement tout ce qu'on dit assez souvent là depuis le début de l'année, le côté événementiel qui prime avant tout sur des sujets qu'on ne peut plus vraiment maîtriser? Alors ok, un Miyazaki, on sait, un Scorsese, il va quand même y avoir du monde. Mais en fait, ça débarque un petit peu de n'importe où sans qu'on s'y attende.
Oui, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sortie japonaise du Miyazaki, où justement il avait essayé de faire différemment de d'habitude pour créer l'événement à sa manière. Mais tu as tout à fait raison, on va aussi y revenir sur le box-office France. Il faut quelque chose de périphérique. Mais dans le cas de Five Nights at Freddy's, ce qui est vraiment assez étonnant, c'est qu'on l'avait souligné. La bande-annonce a été très vue. C'était le premier indicateur du buzz. C'était cette bande-annonce très, très vue.
Alors souvent, on dit souvent quand même que le premier indicateur, c'est la bande-annonce. C'est même la bande-annonce dans les salles qui attire le public. C'est vrai que dernièrement, en plus, tu as eu La Nonne, tu as eu L'Exorciste. Donc ça a permis au film d'exister, en tout cas dans la salle.
Et il est arrivé dans un contexte horrifique, on va dire favorable. Mais il a été certainement boosté aussi par... une attente que le milieu du cinéma ne percevait pas. Et il faut vraiment.
Je te confirme.
Voilà, c'était un truc un peu underground, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, bon, en tout cas, c'est un phénomène dont on va reparler, à mon avis, pendant de nombreuses semaines.
Et ce qui était marrant, justement, sur les estimations, on était donc entre 50 et 80. Taylor Swift, on était entre 100 et 130, ça avait été fait à 90. Et il disait, alors attention, on n'est pas sûr, est-ce que ça va quand même battre Halloween qui avait fait 40, dans le sens où c'est un public très versatile.
Ouais.
Et comme le week-end dernier, je ne sais pas, un Spider-Man 2 qui sort en jeu vidéo peut les empêcher d'aller au cinéma. Donc, ils réservent, mais ça ne se transforme pas tout le temps en recette.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y avait d'un côté L'Exorciste, qui était un projet annoncé depuis plusieurs années par Universal, et qui était un projet très cher, et qui était avec trois exorcistes d'annoncer, et qui était vraiment un film très attendu.
Dis-toi qu'il a déjà battu L'Exorciste installée, au niveau worldwide, puisque L'Exorciste est à 120 millions, et que Five Nights... est à 130.
Ah oui, là on sent que les chiffres t'impressionnent toi-même. mais quoi qu'il en soit, c'est bien aussi et c'est salvateur de voir qu'après Barbie, après Oppenheimer, on a de nouveau, alors évidemment, c'est peut-être pas un film 100% original parce qu'il est adapté de quelque chose, mais néanmoins, c'est pas une franchise clairement installée dans le milieu du cinéma et ça fait du bien de voir ça. Tout comme d'ailleurs, Le Garçon et le Héron apparaît dans le box-office international de cette semaine, à la 9e place du classement, sorti sur seulement 5 territoires et avec au total pour l'instant 71 millions de dollars à l'international. Donc voilà, c'est quand même un petit fait notable. Julien, tu voulais peut-être insister sur autre chose.
Complètement. Et on retrouve aussi également, donc tu avais, on va juste terminer, il y avait SOX, lui il en a 91 millions. Donc L'Exorciste, on l'a dit. Pat Patrouille, 166. Les Trolls, il a 36, mais il n'est pas sorti encore sur beaucoup de territoires. Il nous reste quoi? Who's the Suspect?
Oui, voilà, c'est un nouveau film chinois.
Voilà,
on vous tient au courant.
Petit démarrage, 5 millions.
Ouais, 5 millions, mais on notera quand même, en tout cas, je n'ai pas vérifié, mais à vue du titre, qu'il s'agit une fois de plus d'un film à tendance thriller côté chinois et que ça a l'air de pas mal marcher.
Mais alors, je sais pas où je lisais, il y a aussi un film coréen qui cartonne en Corée et qui a aucun distributeur en France. Ah. Bon, je vous redonnerai le nom parce que là, je l'ai pas sur moi, mais on en entendra parler, je pense.
Voilà pour ce qu'il fallait retenir du box-office US et international. On va sans plus tarder se tourner vers Charlotte avec le petit quiz de la semaine concocté par tes soins et par Max aussi.
Oui, concocté par mes soins et par Max surtout. Hein, un grand merci à Max qui n'est pas là ce soir. Donc je vais vous poser des petites questions par rapport à ce box-office France. Je voulais vous poser une première question sur la dernière fois qu'on avait vu 10 films au-dessus des 100 000 entrées au week-end en France. C'était quand?
Parce que là, vous allez comme ça avoir un petit aperçu de ce box-office avant qu'on l'ait vu. Mais effectivement, il y a 10 films au-dessus des 100 000 entrées en France. Alors ça, je ne sais pas.
C'était...
Vas-y, Tom.
C'était en avril, début avril.
Non.
Alors, tout ce que je sais, c'est que la dernière fois que le box-office a passé 3 millions d'entrées, c'était début août. Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait autant de films qui étaient à 100 000 entrées.
Et oui, parce que c'était le 22 février 2023. On avait pas mal de propositions, à savoir Alibi.com 2, Astérix, Ant-Man 3, Fablemans, etc. Et c'est vrai que c'est...
Il faut penser vacances.
Bah oui, mais c'est vrai que c'est assez incroyable parce que depuis la réouverture des salles en 2021, c'est arrivé donc 4 fois, 3 fois en 2021 et une fois en 2022. Et parmi ces 4 fois, donc depuis 2021, la date de la semaine, dernière semaine d'octobre est arrivée 2 fois sur les 4, à savoir le 26 octobre 2022 et le 27 octobre 2021. Donc c'est vrai que c'est une date entre Halloween, les vacances de la Toussaint et puis aussi effectivement le 1er novembre férié qui est forcément assez intéressante. Hein.
J'allais dire, et en décembre, t'as pas retrouvé, parce que c'est vrai que février, décembre, c'est les deux mois les plus chargés, les plus importants. Pâques, les vacances, c'est un peu dilué. Et c'est vrai qu'octobre, t'as cette chance que pendant 15 jours, c'est les vacances non-stop.
Et théoriquement, il fait pas très chaud, pas très beau, mais bon.
Exactement, ça varie un peu. C'est pas arrivé en décembre. Les autres dates, les 4 dates depuis 2021, c'était le 3 novembre 2021. Et le 30 juin 2021.
Ok, voilà. Bonne stat, on va vérifier tout ça.
Mais on attendait beaucoup hein, de cette semaine, on vous l'avait dit déjà la semaine dernière et la précédente. Elle devait permettre au box-office France de décoller et vous le sentez, ça a été quand même visiblement le cas avec pas mal de surprises à la clé. On va y revenir après, mais maintenant il est l'heure de la deuxième question.
Oui, parce qu'une de ces surprises, c'est évidemment 3 jours max. Et je voulais savoir, selon vous, quel est le film de la bande à Fifi qui a fait le plus gros démarrage au premier week-end?
Alibi 2.
Hein. Non, Babysitting.
Babysitting côté ma fille qui n'a pas le micro sous la main.
Alors Julien, est-ce que tu sais,
Tom? Babysitting 2.
Ok.
Alors. Ouais, comme ça, c'est vrai que je suis plus... parce qu'Alibi 2, il est à 800 000.
Quentin, une proposition?
Moi, je vais provoquer 800. La chance, je vais dire Nicky Larson, vraiment juste pour dire autre chose.
Alors.
Ça s'appelle provoquer l'échec, ça s'appelle la chance.
Figurez-vous que c'est Alibi.com 1. Qui avait démarré à 870 000 entrées, juste en dessous Alibi.com 2, avec 808 000 entrées au premier week-end. Et après, épouse-moi mon pote, un petit peu plus bas, à 746 000 entrées. Donc voilà, pour un autre film dont on attendait la sortie avec impatience, je vais vous poser une petite question. Quel est le film avec Albert Dupontel qui a fait le plus d'entrées en France? N'oubliez pas que c'est une question de Max, donc forcément, la réponse n'est pas évidente.
C'est peut-être... c'est... Au revoir là-haut, non?
Non.
Je sais pas.
Personne ne l'a? Eh bien, oui, vas-y.
Non, vas-y, après j'allais citer tous les titres, je disais.
Eh bien, figurez-vous que c'est un long dimanche de fiançailles qui a fait 4 millions d'entrées en France.
Parce qu'on oublie que c'est Albert Dupontel.
Alors, vous avez pas vu, mais Quentin est très énervé parce qu'il avait la réponse et il n'a pas vu.
Mais un long dimanche de fiançailles, c'est Jean-Pierre Jeunet. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Non, mais
avec Albert Dupontel.
Ah bah non, mais alors là, moi je comprends plus rien.
Moi j'avais pas compris.
Je suis comme toi.
J'étais sur les en tant que réalisateur.
Ouais, d'accord.
Et enfin, petite dernière question, au million près, hein, combien d'entrées pour Ken Loach sur l'ensemble de sa carrière?
Ça, c'est vraiment une question de Max.
Hein. Vraiment.
Il a fait combien de films? En moyenne, il doit être à 500 000.
C'est étonnant qu'il n'ait pas posé de questions sur la fiancée du poète, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi.
C'est vrai que c'est son film.
écoute, je ne sais pas.
18 millions.
Sur l'ensemble de sa carrière, c'est beaucoup quand même. Non, moi, je dirais plutôt 6 ouais, millions, 6-7 millions.
6 millions, aujourd'hui aussi, ouais.
Eh bien, c'est 10 279 561, avec en tête de liste le Vent se lève qui a fait 900...
Non, ah, c'était 1 million. Pourtant, okay.
971 000. Ensuite,
Palme d'or, on le rappelle.
Exactement. Hein, suivi de Daniel Blake à 955 000 et La part des anges, 777 000 entrées. Voilà, donc un box-office qui va être particulièrement intéressant, introduit par ces petites questions.
Bah, on va y revenir à ce box-office France, mais d'abord un retour vers Damien, qui est toujours notre invité, tout au fil rouge de cette émission. Damien, comment justement, par rapport à cette année 2023, vous vous situez, vous, chez Whale Bunch? Comment est-ce que vous analysez ce début d'année, ou plus largement d'ailleurs, cet après-Covid, cette sortie de Covid?
Écoute, je pense qu'à l'instar de pas mal de nos confrères, donc on a vu un marché effectivement qui a repris des couleurs hein, en 2023. Il y a eu des mois qui sont même rapprochés des chiffres de l'avant Covid aussi, avec des hauts, des bas. Un mois de juin qui était un peu en dessous, juillet avec le phénomène Barbenheimer effectivement qui a largement boosté le marché pour revenir à des niveaux finalement assez proches de 2019, qui était une année record aussi. Incarné par le Roi Lion chez Disney, qui à lui seul déjà avait fait plus de 10 millions d'entrées. Mais disons que ce chiffre global, il est intéressant. Après, quand on regarde dans le détail, c'est vrai que la concurrence, presque paradoxalement, n'a jamais été aussi féroce. Il y a énormément de films qui continuent de sortir. Il y a beaucoup de films qui restent aussi sur la touche et qui n'ont pas l'opportunité de rencontrer leur public. Pardon. Donc c'est vrai que je crois que plus que jamais, le spectateur, il fait des choix spécifiques, parce qu'il n'a jamais eu autant de propositions, tout support confondu. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il faut composer non seulement avec l'univers concurrentiel salle, mais le macro-environnement qui tient compte des sorties événementielles plateformes, dont on sait qu'elles vont prendre énormément de bandes passantes aussi quand elles arrivent. Donc, je crois encore à la force du cinéma sur différentes typologies de films. Les films événements, vous en parliez tout à l'heure aussi, les films d'auteurs ambitieux et qui sont dans des genres différents. Moi, je me réjouis des entrées et de la formidable tenue d'un film comme Le règne animal, qui est un très bel exemple de ce point de vue, parce que c'est un film français ambitieux avec un gros budget dans un genre qu'on a moins l'habitude de voir, surtout à ce niveau de budget. Et on voit que le film tient extrêmement bien et que le public s'élargit aussi pendant les vacances.
Et ça peut permettre la création d'autres films de ce type-là, peut-être.
Exactement. Derrière. Et ça ouvre d'autres portes et ça donne foi en tout cas à la curiosité du public. C'est juste qu'effectivement, les projets qui sont un petit peu trop formatés, calibrés et qui pouvaient encore fonctionner sur l'avant-Covid, ça peut être des sanctions beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Donc le marché est là, mais il faut à minima être... une forme de choix numéro un la semaine on décide de sortir. C'est pour ça que le choix de la date de sortie a toujours été une décision et un choix complexe à faire. Je dirais qu'il l'est peut-être encore plus de ce point de vue. Donc il faut pouvoir être un choix numéro un sur sa cible de référence et réussir à bien l'identifier, le positionner, et ensuite être dominant. Et pour être dominant, il faut aussi dépenser avec la part de risque que ça comprend. Donc
justement, par rapport à ça, au niveau des acquisitions, quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on a souvent entendu que pour des distributeurs indépendants, c'était extrêmement compliqué, notamment d'aller chercher aujourd'hui des films américains ou des films de grands auteurs? On sait que Whale Bunch, vous avez permis, je pense à James Gray par exemple, il y a quelques années, qui a acquis sa notoriété avec vous. On peut se rappeler aussi que c'était Whale Bunch qui avait sorti Sin City et moult autres propositions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que c'est les MG, donc les minimums garantis qui permettent derrière d'avoir les droits d'exploitation d'un film en France, sont en train un peu de se tasser, ou est-ce que c'est complètement inabordable d'aller chercher des gros films américains ou des gros films événements?
Écoute, de mon point de vue, parce que sur la partie acquisition, je suis encore un peu jeune et frais sur le sujet, hein, évidemment, mais de ce que j'ai pu constater, pour moi, il y avait une grosse envie des vendeurs de revenir fort sur le marché sur l'après-Covid. Ça ne s'est pas traduit par une déflation, en tout cas des prix, au contraire. À mon sens, on constate, nous, chez Whale Bunch, il y a de plus en plus de difficultés à aller trouver des bonnes opportunités au bon prix sur les marchés internationaux. Et par conséquent, sur le choix de la ligne éditoriale, pour revenir à ta première question, c'est vrai qu'on fait le choix d'aller sur une ligne qui est beaucoup plus francophone dès l'année prochaine par rapport à ce qui a pu être fait. Alors, Whale Bunch a toujours sorti beaucoup de films français, hein, bien sûr, mais francophone pour des raisons artistiques et économiques. et en restant effectivement diversifié avec à la fois des comédies larges grand public, mais aussi des films d'auteurs, parce que Wild Bunch, je crois, dans son ADN, a toujours accompagné des premiers, des deuxièmes longs et des auteurs qui ont des potentiels festivals également. Évidemment, on a à cœur de continuer de défendre certains genres spécifiques. On parlait du film de genre, Wild Bunch a été aussi à l'avant-garde sur beaucoup de franchises, derrière aussi sur qui ont très bien fonctionné par la suite. Donc le film de genre reste un genre qui a beaucoup d'avenir au cinéma, on le voit, et les exemples qu'on vient de citer tous ensemble en attestent.
C'était Wild Bunch qui avait sorti Rec, notamment.
Par exemple, absolument. Ouais.
On se souvient de
Paranormal Activity.
Paranormal, ouais, vous aviez chopé à Paramount à l'époque. Donc,
exactement. Voilà. Donc, non, c'était une époque bénie aussi. Tu parlais des James Gray, évidemment. Ouais. C'était une époque où on pouvait encore plus facilement faire ce genre de coups. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Et puis évidemment l'animation, parce que c'est au-delà de l'actualité qu'incarne Miyazaki, c'est un genre aussi auquel on reste très très attaché chez Wild Bunch. Donc voilà, on essaye d'être pragmatique tout en restant évidemment cohérent artistiquement parlant et d'avoir une ligne qui colle à l'ADN historique de la maison Wild Bunch.
On a eu d'ailleurs un petit aperçu de votre line-up à venir lors du congrès de la FNCF. Vous avez d'ailleurs même fait venir une équipe de films, je crois, si ma mémoire est bonne. Non,
alors non, j'aurais non, adoré c'est... en plus, ah, mais bah, comment voilà, passer les tout derniers... Mélange.
Oui,
j'ai abandonné l'idée.
Mais on attendait, je me souviens, il y avait cette attente d'un gros, de quelque chose de gros vous concernant.
Qui était Miyazaki,
qui était la bande-annonce en exclusivité à ce moment-là. Mais néanmoins, on sentait effectivement côté français des belles promesses. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces films à venir qui vont faire les prochains mois?
Bien sûr. Bah écoute, tu parlais du congrès. Alors c'est vrai que sur les comédies, on en a trois au premier semestre l'année prochaine. Il y en a une sur laquelle on a fait un focus tout particulier qui est une comédie qui s'appelle 14 jours pour aller mieux. C'est un deuxième long métrage, Édouard Pluvieux. Et c'est la première fois qu'on verra l'humoriste Maxime Gasteuil vraiment en tête d'affiche d'un long. Et c'est une histoire qui est partiellement adaptée d'une partie d'un pont de son deuxième spectacle qui, avec lequel il est en train de tourner dans toute la France. Qui cartonne, qui fait vraiment il a encore fait donc deux zéniths complets à Toulouse hier avant-hier, et il termine sa tournée là, à Bordeaux à la fin de la semaine avec un enregistrement une captation de cette date-là qui sera diffusée mi-novembre sur TMC d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais et que le film lui, on est très content de ce qu'on a pu voir jusque-là, est encore en cours de post-production, il sera prêt. À la fin du mois de novembre, on va commencer à tourner avec dès le mois de décembre. Et c'est l'archétype du film, de la comédie, avec laquelle on a l'ambition de faire beaucoup de dates de sortie.
Et on a vu d'ailleurs des teasers très efficaces.
Voilà, et on a mis en avant donc 4 teasers d'ailleurs. Ouais. Ils m'ont dit effectivement que ça faisait beaucoup, mais il fallait aussi que la population du congrès, les exploitants identifient Maxime Gasteuil, qui n'est pas tellement connu finalement chez les exploitants, mais qui a un public très identifié en province. Donc voilà, c'est une de nos comédies phares qui sortira le 6 mars. On a également deux autres comédies. Le prochain film d'Yvan Calbera, qui est en tournage en région PACA d'ailleurs, avec André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, et qu'on sortira donc le 24 avril. Et également une autre comédie qui est en post-production. C'est le deuxième long métrage des co-réalisateurs du film Jumeaux, mais pas trop, qui était sorti chez SND avec Ahmed Silla, Bertrand Huskla il y a un peu plus d'un an. Cette fois avec Bernard Campan, Isabelle Carré, Pablo Poli et Julia Faure, donc qui s'appelle Et plus si affinité, et qu'on sort le 3 avril. Voilà, ça c'est un peu les trois comédies, un retour à un genre qu'on avait moins vu chez Wild Bunch ces dernières années.
Effectivement, gros potentiel en tout cas pour tous ces films. Et on est en demande de films, et notamment de comédies françaises qui renouvellent un peu le genre, car on voit vraiment un essoufflement de la formule un peu classique, et donc c'est pour ça que ce que tu mentionnais à l'instant nous attire, parce que clairement il faut un peu de sang neuf aussi dans cet univers. Julien, tu voulais ajouter quelque chose auprès de Damien, t'entendais pas ce que je disais, pardon.
Non, alors bizarrement j'ai eu la chance en plus de voir Maxime Gasteuil en spectacle.
Ah bah voilà,
quel bon élève.
J'ai tout suivi.
Est-ce qu'il t'a fait rire?
Ouais, non, ça a été, c'était très bon. La salle était pliée. Je comprends que ça plaise. Et je t'avoue que je n'avais pas fait attention que c'était lui, justement,
dans
la tête d'affiche sur 14 jours pour aller mieux.
Eh bien, écoute, en tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Il est temps maintenant de faire une petite pause et de passer tout de suite à l'analyse des chiffres France. On en a un peu parlé, mais on va plus analyser tout ça ensemble.
C'est hyper beau, le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Et je le disais, il est temps maintenant de parler de ce box-office France dont vous avez eu quelques bribes déjà tout à l'heure avec Charlotte sur le quiz. Tom, on le disait, record, pas record, enfin en tout cas un chiffre qui fait du bien, c'est le chiffre total d'entrée.
Ouais, semaine à enjeu énorme pour le box-office France parce que comme l'a dit Julien il y a deux semaines, il faut faire 8 millions d'entrées pendant les vacances scolaires. Donc cette semaine-là était hyper importante et on va dire que le marché n'a pas passé la seconde mais la troisième puisque 3 millions d'entrées ce week-end, c'est le cumul. C'est la première fois depuis le mois d'août que le box-office français passe la barre des 3 millions sur un week-end. Quel est le secret de tout ça? Et ben, c'est un savant mélange. C'est un savant mélange entre des films d'animation, des comédies ados familiales et des phénomènes. Voilà, des phénomènes qu'on va expliquer, dont on va parler lors de ce box-office France. Alors, en tête toutefois du box-office, c'est un film français, c'est la fameuse comédie familiale dont je parle à l'instant. Ma Fili, dis-nous en plus.
Alors, 3 jours max, c'est la troisième réalisation de Tarek Boudali, donc la bande à Fifi est de retour au cinéma. Et les chiffres sont au rendez-vous parce qu'on est à plus de 700 000 entrées en 5 jours. Ce qui est un très très beau et haut démarrage, qui est au-dessus du dernier film de Tarek Boudali qui était 30 jours max, qui était environ à 370 000 entrées. Et on est proche d'Alibi.com 2 qui était à 808 000 entrées. Donc on peut dire que... Pardon.
Non, vas-y.
Donc on peut dire que c'est un très gros week-end pour 3 jours max et c'est de bon augure pour la suite.
Et on peut dire aussi peut-être qu'ils sont parmi les seuls à attirer vraiment sur leur nom des spectateurs dans les salles en France. C'est impressionnant. On se croirait à la grande époque de Marvel. Là, en tout cas, c'est assez fou.
Mais je le comparais quand même à Épouse-moi mon pote, lui qui avait ouvert à 746 000. Donc c'est légèrement en dessous. Après, ça reste un super bon démarrage. Hein. Attention. Hein. Et c'est vrai qu'on peut le voir sur le marché. On a du mal à sortir les seniors de leur lit, de leur maison, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils ont un peu du mal. Les jeunes ont répondu présent, en tout cas pour cette première semaine de vacances.
Et alors, il y avait ce phénomène 3 jours max qui était un peu attendu, qui pour le coup était plus dans, avec toutes les avant-premières qu'il avait faites avant et souvent avec équipe, hein, 108 000 d'avant-premières, c'est quand même assez fou aujourd'hui les films qui dépassent les 100 000 en avant-première. Donc on sentait quand même un frémissement. Derrière, Tom, il y a aussi d'autres choses à signaler.
Et oui, on parlait des films d'animation, on les retrouve en deuxième et en troisième position avec l'inévitable désormais Pat' Patrouille, la Super Patrouille, qui reste en seconde position avec tout de même, il faut le signaler, un plus 87% par rapport au week-end dernier, évidemment lié aux vacances scolaires, ce qui nous amène à un cumul désormais à 1 600 000 entrées pour le film Paramount. C'est déjà mieux que la carrière totale du premier épisode. Et voilà, on reste un peu sur notre ligne qu'on donnait depuis la sortie, c'est-à-dire une fin de vie autour de 2,5 millions, voire 3 millions s'il y a vraiment une belle tenue hors vacances scolaires sur un rythme mercredi, samedi, dimanche.
Et en tout cas, il est devant les Trolls 3, donc il y a aussi là un passage de relais peut-être entre deux franchises.
C'est ça, un écart qui continue à se creuser malgré la bonne tenue des Trolls 3, lui qui progresse de 90%, preuve aussi d'un démarrage un peu faiblard. La semaine dernière, on en avait parlé du troisième épisode des Trolls, sorti par Universal. On arrive à 800 000 entrées, on devrait arriver au million d'entrées avant mercredi, mais faut être réaliste, la fin de vie des Trolls va être quand même loin de celle de Pat' Patrouille, puisque là on espère plus à 1,5 million, voire 1,7 million au maximum sur Pat' Patrouille. Pareil, ce sont des films qui vont tenir jusqu'à la sortie de Wish à la fin du mois de novembre, le Disney de Noël. Mais malgré ça, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Et les Trolls 3, lui, on devrait le situer autour de 1,7 million.
En tout cas, il ne devrait pas trop être impacté par la sortie du Garçon et le Héron, hein, comme on disait tout à l'heure, qui s'adresse à un autre public. Et alors après, on trouve un film français qui était attendu, parmi les plus attendus de cette rentrée, le nouveau film d'Albert Dupontel.
Ouais, tout à fait. Ma Fili, est-ce que tu veux parler de Second Tour, peut-être?
Je peux dire quelques mots sur Second Tour. Second Tour, donc nouveau film d'Albert Dupontel. Et pour sa première semaine, on est à 372 000 entrées. C'est un résultat qui est en dessous de son précédent film, Adieu les cons, qui était environ à 375 000 entrées en 5 jours.
Et également, c'est vraiment très proche quand même, 375 000.
Non, on est à 372 pour ouais. Second tour et 475.
Je me suis trompé. D'accord, c'est pour ça.
Donc il y a 100 000 entrées d'écart.
100 000 entrées d'écart et on se rappelle qu'il était sorti juste avant la fermeture des salles.
C'est ça, donc dans un contexte assez particulier. Voilà.
Et donc, c'est plutôt correct, même si certains s'attendaient certainement à plus aussi du côté de ce film d'Albert Dupontel. C'est compliqué d'analyser
pour l'instant. C'est compliqué parce qu'il fait partie de cette liste de films français événements avec une année difficile avant lui ou même un métier sérieux qui finalement ne performe pas aussi bien qu'on l'espérait, qu'on l'attendait. Donc voilà, il y a aussi, il faut le dire, des réserves spectateurs sur le film qui fait que peut-être que le bouche-oreille est moins fort qu'un Un Dieu les cons, par exemple. Ça peut s'expliquer ainsi. En tout cas, on le verra. Sa tenue en deuxième semaine va être déterminante sur sa capacité à juste finir au million ou à aller vraiment au-delà, un 5, un 8. Voilà, c'est sa deuxième semaine. Et d'autant plus, deuxième semaine cruciale, puisqu'on va en parler tout à l'heure, très très riche en films et en comédie française.
Alors, le Scorsese arrive à la cinquième place avec bientôt le cap des 700 000.
Ouais, lui, pour le coup, qui bénéficie d'une très bonne tenue, moins 25%, pour un film qui n'est pas forcément ciblé vacances. Hein. Mais malgré tout, malgré sa durée, le film se maintient bien. Il est, comme tu le disais, à 663 000 entrées. C'est bien. C'est au-dessus sur des durées sensiblement similaires, même si c'est compliqué de comparer avec des films de moins de 3 heures, c'est un peu mieux que The Fableman au début de l'année. Et après, on peut aussi prendre des comparaisons du côté de DiCaprio. C'est par exemple moins bien qu'un Gatsby le Magnifique, évidemment, qui était déjà à plus d'un million d'entrées au même moment dans sa carrière.
Ouais, voilà, il faut voir comment on veut voir aussi ce succès ou non, suivant qu'on le regarde par le prisme des précédents succès de DiCaprio ou de Scorsese. Ça n'en demeure pas moins une belle performance pour un film de cette durée, de cette exigence aussi en termes de mise en scène. Et donc je pense que si on avait donné ce démarrage-là au moment de sa présentation à Cannes, beaucoup auraient été assez surpris d'imaginer que ça pouvait démarrer à cette hauteur-là.
En tout cas, c'est un premier coup réussi pour Apple. Ouais. On le rappelle, ça fait partie c'est le premier des trois films Apple qui vont sortir dans les mois à venir.
En attendant Napoléon. Sodis, lui, marche très bien.
Ouais, c'était un film éminemment stratégique pour Metropolitan après la sortie malheureusement décevante d'Expendables 4. Là, on continue sur les franchises avec le dixième épisode de Saw, lui qui est complètement dans ses objectifs, hein, puisque quand on regarde nos comparables Saw, c'est vraiment proche de Saw 5. Qui était... Donc là, on va donner le chiffre, on est à 230 000 entrées à l'issue des 5 premiers jours. Saw 5 était également à 230 000 entrées. Saw 2 était également à 230 000 entrées. Donc voilà, c'est vraiment en ligne avec ce qu'on attend de cette franchise. Et attention, parce que c'est vraiment le genre de film qui peut aussi s'arrêter rapidement. Donc là, il va falloir vraiment qu'il capitalise un maximum sur Halloween, sur la fin des vacances scolaires, parce que ça risque d'aller vite après.
À la 7e place, on retrouve Une année difficile dont on a parlé la semaine dernière, et on vous remercie pour tous vos retours sur le podcast avec Eric Toledano et Olivier Nakache. C'était vraiment un beau moment, un moment fort avec eux. J'espère que vous avez pu l'écouter, et si ce n'est pas le cas, il est évidemment toujours disponible. Tom, comment se comporte le film? Tu disais une petite déception quand même sur la tenue.
La tenue, malheureusement, elle est pas aussi bien qu'on l'espérait. On se disait la semaine dernière que pour atteindre sereinement le million d'entrées, il aurait fallu qu'il baisse de à peu près 20%, pas plus. Là, on est sur une baisse de moins 35% à l'issue du second week-end, ce qui place le film tout de même à 600 000 entrées. Mais c'est évidemment pas en corrélation avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les films du duo Nakache-Toledano. Voilà, une baisse assez sensible, assez significative, qui ne lui assure pas pour l'instant la possibilité d'aller au million fin de carrière. On est dans nos estimations autour de 950 000 entrées. Avec un petit boost, il arrivera à ce million d'entrées, mais ça va être difficile, difficile.
Alors là, on arrive dans les phénomènes, à commencer par évidemment le film de Thomas Caillé, qui ne cesse de surprendre et qui va... Là, on parlait encore d'une hésitation sur le million d'entrées la semaine dernière, mais là, je crois, ma fille, qu'on peut sereinement dire qu'il se dirige tout droit vers ce million.
On peut sereinement dire qu'il se dirige tout droit. Je répète exactement ce que tu dis. Mais on peut le dire concrètement. Le film en est donc à sa quatrième semaine d'exploitation. Et on est à 783 000 entrées. Avec une tenue, une très très bonne tenue, un très bon bouche à oreille. On le voit au fur et à mesure du temps. On est à moins 7% par rapport à la semaine dernière. Donc le film plaît.
C'est ce que disait Damien tout à l'heure. Mmh. C'est vrai que c'est beau de voir un film avec une telle ambition et un tel budget aussi. Hein. Il faut rappeler que ça a coûté cher. Mais se maintenir à ce niveau après un démarrage en demi-teinte, là, il ne cesse de progresser dans les notes spectateurs et autres. Donc, vraiment impressionnant.
On aurait même aimé qu'il démarre plus haut.
Bah, il est vraiment sur les traces de Je verrai toujours vos visages, avec là en tout cas sur son quatrième week-end une petite avance, alors due peut-être aussi à la période des vacances et du marché très fort, mais il est vraiment sur le même trend, donc le deuxième trend de l'année pour ce type de film, qui est assez rare, hein. Je regardais tout à l'heure les comparables, à ce niveau d'entrée. S'il parvient au million, il fera partie des deux seuls autres cas en France à avoir passé ce cap du million après des démarrages un peu moyens. Cette année, en tout cas, c'était Je verrai toujours vos visages et Gran Turismo, dont on avait déjà parlé chez Sony, qui avait aussi démarré difficilement et qui avait tenu comme ça pour aller chercher le million d'entrées. Après, alors, on arrive tranquillement à L'Exorciste. Peut-être un mot là-dessus.
Ouais, pas si tranquillement, parce que finalement, le film, il continue à faire sa belle carrière et il perd peu hein, depuis le début aussi, L'Exorciste.
C'est vrai,
hein.
C'est vrai.
Il perd que 24% de ses entrées sur son troisième week-end. C'est quand même assez rare hein, pour un film d'horreur d'avoir une si belle tenue. Ce qui fait qu'avant même la journée d'Halloween, qui est vraiment une journée capitale pour le film, il arrive déjà quasiment aux 600 000 entrées. Et d'ailleurs, Julien, je crois que sur L'Exorciste, la France est un des pays où le film se comporte le mieux.
Le film se comporte bien, évidemment. On est à plus 53% versus Halloween's End. On est plus 44% par rapport à Scream. Ouais, on a quoi? Plus 20% par rapport à Evil Dead Rise, ouais. Voire devant Insidious. On est presque au même niveau que Smile, qui a terminé 1,2 million. L'Exorciste ne terminera pas 1,2 million. Mais en tout cas, après trois week-ends d'exploitation, quoi, deux semaines plus un week-end d'exploitation, il y en a un donc on a dit qui était pas loin des 600 et l'autre qui était à 636. Donc non, une belle performance. Alors peut-être que il y a quelques mois, justement à l'inverse, on l'aurait mis peut-être un petit peu plus haut par rapport à son côté événementiel, par rapport au côté on le sort à nouveau de du film de 72, 73, 78.
73. Soit suite directe, en tout cas présentée comme telle du film de 73.
Exactement. Et on a vu, c'est vrai que par exemple, les résultats US, on l'a dit tout à l'heure, au niveau worldwide, Five Nights était déjà devant L'Exorciste. Donc c'est un très bon résultat. Mais pas exceptionnel, mais un bon résultat.
En tout cas, il arrive devant ce phénomène que personne n'avait vu venir. Plus 106%, c'est pas toutes les semaines qu'on peut le mentionner. Cette progression complètement dingue, vous en avez forcément entendu un peu parler ici ou là, c'est le film Le Consentement.
Ça fait bientôt 50 épisodes qu'on fait ce podcast, un an et demi. Et ouais. on parle d'une vingtaine de films toutes les semaines et on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une telle tenue. Je me souviens de mes propos il y a trois semaines en disant le film démarre à peu près comme le distributeur l'attendait. Et puis je crois que c'était Jérémy qui me reprenait, qui me disait non, c'est vraiment pas assez, ils auraient pu faire plus. Bah, Jérémy n'est pas là, je lui rends hommage ce soir. Il y avait vraiment moyen de faire plus. Et ils l'ont fait. Et c'est le phénomène que représente Le Consentement, et après je vais venir aux chiffres. Le phénomène que représente Le Consentement, c'est quelque chose que même le distributeur n'a pas calculé. C'est même pas le distributeur qui a l'origine de ça. C'est vraiment un événement réseaux sociaux. C'est ce qui se passe sur le TikTok, sur les films. C'est comment les gens partagent leur expérience du film sur TikTok et commencent à créer des émulations. Comment il y a eu des vidéos de témoignages de gens qui ont vu Le Consentement et qui ont derrière fait 20 millions de vues sur TikTok. En tout cas, voilà. Ce qui fait qu'un film qui démarre de mémoire autour de 50 000 entrées au premier week-end réalise sur son troisième week-end 103 000 entrées. Ce qui fait que ça lui fait un plus 106%. C'est exceptionnel. 245 000 entrées au total pour la panne distribution. Et on sent que ça ne va pas s'arrêter. Et forcément, c'est un scénario qui fait rêver. Je pense, Damien, c'est le genre de scénario qui fait rêver les distributeurs, ça.
Oui, c'est sûr, même si, comme tu l'as souligné, le film a démarré à un niveau relativement bas, modeste. Je crois qu'effectivement, la campagne elle a été très ciblée sur un public 50+, qui n'a pas tellement adhéré au film. Ouais. Et comme l'a dit Thomas, c'est un phénomène qui dépasse le distributeur, qui constate et qui peut surfer dessus aussi. Et non, ce film TikTok, il est incroyable. Et la vraie question, c'est de savoir combien de temps ça va durer comme ça. Les vacances, mais en tout cas.
Quentin, est-ce que le film était au Batignolles ou pas?
Non, on l'a pas eu, mais c'est un film effectivement qui fait beaucoup et qui nous fait poser beaucoup de questions à nous les exploitants, parce que la question de la place des réseaux sociaux dans nos sorties, c'est un truc qui date d'il y a assez longtemps dans les salles. Nous, on est un vieux média, la salle de cinéma, la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux s'est imposée par elle-même, notamment pour présenter nos programmes. Et là, on est vraiment en train de se demander s'il n'y a pas vraiment quelque chose à jouer. Et alors, je vais faire un pont qui peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre après. Je vais faire un pont avec FNAF. FNAF, c'est le fameux Five Nights at Freddy's. J'en parle à mes collègues exploitants. Vous allez avoir plein de jeunes qui vont vous demander FNAF. C'est Five Nights at Freddy's. Et effectivement, c'est un phénomène qui pour moi est unique, qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre équipe, parce que contrairement à Mario, Five Nights at Freddy's, c'est pas un jeu auquel les gens ont joué. Five Nights at Freddy's, c'est un jeu auquel les gens ont regardé des streamers jouer. C'est un énorme phénomène de Twitch, Five Nights at Freddy's, et il y a une raison à ça, c'est que le jeu en fait est injouable. Du coup, il n'y a pas du tout le même engouement, et il y a une présence sur les réseaux. Enfin, Five Nights at Freddy's, tout le monde connaît par des Twitcher interposé, donc en fait il y a un éloignement entre le public cible et le film lui-même. Et en fait là, pour le consentement, on se pose la question s'il n'y a pas un phénomène qui est le même, et surtout comment est-ce qu'on est censé s'implémenter là-dedans. Est-ce que nous, en tant que salle de cinéma, est-ce qu'on peut participer à une trend comme une trend TikTok? Est-ce que c'est quelque chose en fait qu'on doit laisser hors de contrôle, c'est-à-dire jouer un peu le coup du hasard, c'est-à-dire on va sortir un film comme on le fait d'habitude et on va laisser le public s'en saisir. C'est vrai, c'est assez fascinant comme phénomène, le phénomène qui est autour là du consentement, donc qui est un phénomène qui vient du public, et que je fais le pont avec Five Nights at Freddy's parce que c'est des choses qui sont, comme on l'a dit, qui sont impossibles à prévoir. Et nous, on se pose surtout la question en tant qu'exploitant, c'est est-ce qu'on peut y contribuer, ou est-ce que ça restera encore une fois un truc un peu atomique, un peu nucléaire.
J'aurais aussi, moi, rapproché ça d'un autre phénomène qui avait été celui qu'on avait observé dans un mode un peu plus mineur, bien sûr, mais autour des Minions, Minions 2, où pas mal de jeunes se filmaient, là aussi, avant la séance et après, mais cette fois habillés en costard, qui allaient voir le film habillé en costard. Et aussi, peut-être, rappeler que finalement, chaque génération a aussi besoin d'un film un peu choc, qui les marque. Moi, je me souviens, enfin, ado, c'était plutôt Requiem for a Dream qui m'avait vraiment sidéré à ce moment-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais on avait ce truc de waouh, il faut aller voir ce film-là. C'était alors soit Fight Club, soit Requiem for a Dream. Il y avait vraiment ce truc-là. On se souvient de nos parents, c'était peut-être plus Orange Mécanique ou autre. Mais donc, il y a toujours eu un peu ce truc-là, et que finalement, on retrouve un peu aussi dans cette forme TikTokienne qui n'existait pas auparavant.
Et ce qui est encore plus bluffant, je trouve, sur ce film, et les références que tu cites l'attestent, c'est qu'on parle d'un film français, ouais, et qu'on arrive à faire venir des jeunes qui ne vont jamais voir des films français en théorie, ouais, aller sur un film français parce qu'il y a eu ce phénomène TikTok et parce qu'il y a eu des gens qui ont réussi à être prescripteurs sur des films français, ce que plein de distributeurs essayent de faire depuis des années mais qui n'y arrivent pas.
Sans le cri du cœur.
Il y a une forme d'aveu d'échec au fond du travail à la fois des exploitants et des distributeurs, qui a occasionné d'ailleurs des problèmes dans la semaine entre des cinémas qui passaient pas le film et d'autres qui passaient le film dans des petites capas, qui ont dû changer de capa, qui ont été complètement dépassés par le phénomène. Tu voulais réagir, Julien ?
Non, c'est vrai que, alors, oui, phénomène, après plus impactant, parce que c'est surtout en termes de volume, comme l'a dit Damien, ça a commencé bas, ils se sont peut-être trompés de cible, et ça a été rattrapé par la cible jeune. On le voit clairement dans les chiffres à partir du lundi des vacances, parce qu'on était au deuxième week-end, on était à plus 9, juste avec le lundi, mardi, on est passé à plus 40% sur la deuxième semaine, et plus 100% sur cette semaine.
Et tous les jours, ça montait, hein, vraiment.
Et tous les jours, ça montait. Alors après, on est sur un volume un peu plus restreint, donc forcément, ça se voit plus. Mais il s'est passé quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera pas, parce que c'est arrivé, comme tu le disais, sur les Minions, mais l'un dans l'autre, dans le volume, tu ne le vois pas forcément apparaître. Je crois que ça s'était passé aussi sur Simone. Il y avait aussi eu pas mal de retours sur TikTok.
Et on peut aussi rapprocher ça de phénomènes qu'il y a eu sur Creed, où les gens se filmaient dans la salle en train de réagir.
Exactement,
face à l'écran.
Ouais.
Mais c'était quand même un peu différent aussi. Mais en tout cas, bon, il y avait
ce
avait
qui est marrant, c'est que là, le challenge sur TikTok, c'est vraiment je me filme avant et après. Hein. Il n'y a rien de plus.
Là, c'est le côté avant-après qui marche bien. Ouais.
Mais t'as raison sur le côté film choc de génération. C'est vrai que Requiem, on sait quoi, c'était avec les VHS.
C'était le DVD à l'époque.
Ça se demandait ce qu'aurait donné Requiem à l'époque, ouais, avec les réseaux sociaux en fait.
Ouais, c'est clair.
C'est ça qui est assez fascinant. Ça aurait pu être une déferlante.
Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter sur le consentement? Tout le monde, Quentin qui trépigne.
Ah ouais, mais parce que moi je suis super content de cette période. Moi je trouve que ce qu'on vit cette année, mais ça doit dater d'il y a un certain temps, c'est que en fait je pense que les jeunes ont une volonté profonde de reprendre le contrôle d'un endroit. C'est évidemment pas qu'ils sont pas les bienvenus, mais le cinéma, comme je le disais au début, on est des lieux culturels qui existent depuis longtemps. La première fois que vous venez en salle de cinéma, en général, c'est avec vos parents. Donc il y a un moment donné où je pense qu'il y a un phénomène qui est normal et qui est cyclique, où les jeunes veulent reprendre possession de la salle. Et je pense qu'en fait, c'est une manière très large de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le top du box-office monde, on a un concert de Taylor Swift. Pourquoi est-ce qu'on a un jeu inconnu au bataillon qui s'annonce comme étant un monstre d'entrée? Pourquoi est-ce que le consentement? Mais justement parce qu'on les attend pas. Et c'est exactement là que les jeunes y vont, là où on les attend pas. Et moi, je suis très content qu'ils reprennent possession des salles de cinéma. Venez.
Et à rapprocher aussi de Barbenheimer, qui évidemment a rapproché des gens de films qui ne seraient pas forcément allés voir l'un ou l'autre. On en a parlé à la rentrée, mais c'est des phénomènes vraiment étonnants. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce box-office, parce que le temps presse, ouais, et il faut qu'on dise en un mot, Tom.
On va aller vite sur le reste des démarrages et parler rapidement de The Old Oak, le vieux chêne, le dernier film de Ken Loach sorti par le Pacte, qui a réalisé 78 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Avec un beau résultat sur Paris, puisqu'il est cinquième sur Paris, il réalise plus de 15 000 entrées sur Paris, juste derrière le règne animal et devant 3 jours max. C'est-à-dire, voilà, aussi les résultats des gros films au box-office aussi sur Paris sont souvent assez différents. On parle aussi de Katak, le brave beluga, chez Eurozoom. C'est un film d'animation pour les tout petits, 39 000 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours, lui qui va encore bénéficier de sa semaine de vacances scolaires qui arrive. Et enfin, au rayon des déceptions, malheureusement, on doit signaler le petit démarrage du syndrome des amours passés chez KMBO, 11 500 entrées. Et encore plus bas, The Pod Generation avec Emilia Clarke chez Jour de Fête, 7 225 entrées.
Voilà, tout ne fonctionne pas malheureusement comme on le souhaiterait. Mais à noter quand même aussi que Linda veut du poulet, très bon film de côté GBK, on est à 60 000 entrées, et Nina, le secret du hérisson côté KMBO, à 80 000 entrées. Donc il n'y a pas que les gros films d'animation qui marchent aussi dans les salles. Un mot maintenant sur les sorties de la semaine prochaine. On a évidemment parlé du Garçon et le Héron, et il est temps de regarder ce que ça donne au niveau du classement sur Twitter. Alors c'est Charlotte, qu'est-ce que ça donne sur notre classement Twitter?
Alors oui, on a pris donc les quatre sorties, à savoir celle de Metropolitan Flow, Monsieur le Maire, la sortie de UGC Distribution, Le Garçon et le Héron, donc le Miyazaki de Wild Bunch, et L'Enlèvement d'Ad Vitam, et arrive largement en tête avec 66% Le Garçon et le Héron. Donc on a hâte de découvrir ça. Juste en dessous, on a L'Enlèvement avec 22%. Après, nous avons Flo avec 8% et enfin Monsieur le Maire avec 4%.
Voilà, et à noter qu'il y a aussi parmi les autres sorties, il y en a donc au total 13 cette semaine, complètement cramé chez Universal, le film de Gilles Le Gardinier avec John Malkovich, Fanny Ardant et un beau casting. Inestimable, c'est de nouveau chez La Panne, le nouveau film d'Eric Fraticelli, qui devrait faire des entrées très ciblées en Corse, comme les précédents.
Didier Corti.
Avec Didier Bourdon, voilà. L'Enlèvement.
Didier Corti.
Ah oui, oui. L'Enlèvement de Marco Bellocchio, pardon. Le Théorème de Marguerite, c'est chez Pyramide. L'Enlèvement, c'est chez Ad Vitam. À l'intérieur, chez l'Atelier Distribution, avec William Dafoe. Shellac sort MMXX, alors c'est peut-être des chiffres romains peut-être du coup qu'il faut lire en version 2020, voilà, ou sinon Portrait Fantôme chez Urban Distribution, et puis également côté documentaire au film de l'Atalante, on a Zorn 1 et 2 et 3, le Repère des Contraires, là encore c'est du documentaire. Et c'est chez Aléa Film. Voilà pour ce qu'il faut retenir. Après aussi, noter qu'il y a une rétrospective Sacha Guitry qui commence. Bref, beaucoup de choses. On est encore en vacances là, pour quelques jours. Il y a la Paris Games Week, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, qui a lieu ce week-end. Et nous, on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette semaine à venir. On remercie beaucoup Damien d'être venu parmi nous.
Merci Aurélien, merci à tous. Super moment.
Bah écoute, on espère que c'est de bon augure pour la suite et dès la sortie de ce film tant attendu d'Hayao Miyazaki, pardon, Le Garçon et le Héron. Merci évidemment aussi à ma fille, à Charlotte, à Tom, à Julien et à Quentin qui, pour terminer, va nous dire quand même un mot, parce que c'était, je le disais en début d'émission, sa dernière au Batignolles, mais c'est pas la dernière fois qu'on t'entend, mais c'est la dernière ici.
Oui, exactement. Je quitte mes fonctions au 7 Batignolles pour aller récupérer le cinéma Le Club à Grenoble. Je salue mes futurs collègues exploitants grenoblois s'ils nous écoutent. Et si jamais ce n'est pas le cas, je passerai voir parce qu'il va falloir s'y mettre à écouter le podcast, je veux dire. Voilà.
Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci surtout de nous avoir permis de lancer ce podcast l'année dernière. On n'oubliera pas que tu étais aussi à l'initiative de cette suggestion de podcast. Et bien, écoute, nous, on va continuer et on t'appellera bien sûr en direct pour la prochaine émission à Grenoble, un de ces quatre. Et puis, bien, nos amis qui habitent du côté d'Arras, bien, c'est aussi l'Arras Film Festival qui débute. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà. Bref, on a fait le tour. À très vite sur Débrief Film. Merci encore.